qué fiebre hay.
Salut à vous, à la recherche du groove perdu, session 298, session en direct des studios de RDOA. Émission musicale à géométrie variable diffusée ici même à Radio Saint-Ferréol, à Radio Dragon, et Radio Transparence. Deuxième émission cette semaine consacrée aux chansons écologistes, écologiques, vertes et apocalyptiques, où il sera beaucoup question de pollution, pollution des fleuves et rivières, pollution des sols, pollution de l'air, pollution des mers. On ira en Chine, au Brésil, en Inde, dans les Antilles françaises et puis en France avec des extraits télévisés témoignant des dégâts causés sur chacun des endroits. Explorer le tout sera mis en musique avec des chansons parlant bien évidemment de pollution, normal. Beaucoup de reggae, normal aussi, comme d'hab. Et puis quelques morceaux soul funk causant du sujet. Le problème de pollution en Occident ne date pas d'hier, puisque celle-ci est inhérente au développement urbain et industriel du 19e siècle, lors de ce qu'on appelle la première révolution industrielle. Avant ça, l'impact de l'homme se réduisait aux plus grandes villes avec des rejets non maîtrisés qui devaient malgré tout poser des problèmes sanitaires, au moins ponctuellement. Mais rien de comparable avec ce qui s'est passé ensuite au 19e siècle. Augmentation de la population dans les villes, premier rejet industriel, première pollution d'envergure. L'administration n'a pas su s'adapter à ces grands changements, et ce jusqu'à une période très récente en France. Pas besoin de remonter bien loin pour retrouver des situations qu'on observe aujourd'hui dans des pays comme la Chine ou l'Inde, avec des pollutions tellement flagrantes qu'elles ont fait grand bruit à l'époque. On verra ça avec le premier extrait documentaire du jour qui se passait en 1973. La qualité des cours d'eau français a commencé à sérieusement décliner à partir des années 60 avec le remembrement agricole. À cette époque, il faut nourrir la France, on veut pouvoir cultiver partout, ce qui implique de limiter les débordements des cours d'eau. On supprime les sinuosités des rivières, on canalise, on élargit les lits, on construit des digues. À cette altération de la morphologie des rivières, il faut ajouter la pollution chimique issue de l'agriculture, la pollution d'origine industrielle et enfin la pollution domestique. Mélangez tout ça et vous obtenez des cours d'eau à l'agonie. Dans les années 70, dans la plupart des espaces occupés par l'homme, la période la plus critique va en France des années 60 au début des années 90, date à laquelle va émerger la loi sur l'eau et des règles plus contraignantes pour tous les usagers des cours d'eau. Période anarchique où les services de l'État ont été très peu regardants face aux pollueurs. Le premier extrait documentaire du jour s'inscrit dans ce contexte. Nous sommes en 1973 dans le département de l'Aisne, là-haut en Picardie, et les questions de pollution d'origine industrielle. La Fédération de pêche du département alerte les autorités, et notamment le préfet, en vain. Celui-ci trouve que les industriels font déjà beaucoup d'efforts. Faut pas trop les emmerder, sinon ils vont aller produire ailleurs. On écoutera ensuite Marvin Gaye, son Mercy, Mercy Ecology, un des tout premiers morceaux ouvertement écologistes qui date de 1971. C'est parti pour cette émission intitulée Big Big Pollution. À toutes.
Le ministre de l'Environnement a déclaré à l'Assemblée nationale « Qui pollue, paie ». Nous avons voulu nous rendre compte si cette volonté était devenue réalité dans les faits, si vraiment les pollueurs étaient les payeurs. Comme exemple, nous avons choisi le département de l'Aisne. Et là, pour simplifier, une seule pollution, celle de l'eau douce.
Alors ça va, il y a du poisson ?
Ben, il y en a beaucoup moins qu'avant, monsieur.
Ah bon ?
Ben, suite à la pollution, hein,
vous avez... Il y a eu beaucoup de pollution par ici, dans la région ?
Il y a eu plus de 50 tonnes, pour moi.
De poissons morts ?
Ah, de poissons morts, oui, qui ont été enlevés. Ah oui, c'est certain.
Je vais essayer d'une... un exemple, quelqu'un qui va être pris à pêcher en une truite quand la pêche est fermée, il va avoir une très grosse amende, alors que celui qui en détruit des tonnes n'est pas puni... directement et aussi vite qu'un pêcheur qui fait une infraction.
Et vous, monsieur, vous pensez que la justice punit suffisamment les pollueurs ou pas ?
Non, si la justice, ça n'existe pas, ça longtemps. Avec la pollution qu'il y a eu ici, hein, ça fait 4 ans que ça dure. Puis la société n'a encore rien touché presque.
Elle n'est pas assez sévère, la justice, pour les pollueurs. Elle devrait être plus sévère hein, sur les pollueurs, tout ça. Elle devrait mettre des grosses amendes, puis ils comprendront, ils arrêteront.
Les lois, vous les voyez appliquées à l'heure actuelle, hein?
Pensez qu'en matière de pollution, la loi n'est pas appliquée.
Bah non, pas assez.
Pensez-vous.
Hein.
Écoutez.
Pensez.
Ce sont les villes les principales coupables. La preuve, c'est que tous les égouts des nouveaux quartiers là-bas viennent dans le canal.
Il n'y a pas une loi qui puisse obliger la municipalité à faire quelque chose.
Mais non, puisqu'elle est coupable. Nous avons même vu le service d'assainissement en train de nettoyer des égouts le long du canal là-bas. Et tout ce qui ramassait dans les égouts, il vidait dans le canal, c'est pas vrai?
Ah oui,
oh, non, écoutez.
Pour examiner de plus près ces pollutions, un guide, le président de la Fédération des pêcheurs de l'Aisne, André Delaby.
C'est la pollution de la région de Saint-Quentin.
C'est uniquement Saint-Quentin?
Uniquement Saint-Quentin, la région de Saint-Quentin. Vous avez une, deux, trois, quatre grosses affaires qui sont passées ici, aux environs, près de Saint-Quentin.
Et qui fait ces dossiers?
Et c'est la Fédération de pêche, bien entendu, avec le concours des gardes de la Fédération qui font les prélèvements. Et ils sont étudiés par le laboratoire de Saint-Mandé.
Et ça vous coûte cher, ça?
Ben écoutez, c'est une pollution comme celle qui s'est passée à Saint-Quentin vous a coûté à peu près 1 million d'anciens francs.
1 million. Alors, ça, c'est quoi alors?
Alors, ça, voyez-vous, ça, c'est une pollution qui a eu lieu en 1969. C'est la pollution de l'étendil.
L'étang de l'île.
Alors, l'étendil que vous avez ici, près de nous. Cette pollution a été excessivement importante puisque 1500 litres de cyanure se sont déversés dans les égouts à la suite d'une rupture de durite d'une usine. Le résultat, j'ai été prévenu qu'il y avait du poisson qui était mort dans l'étang. On a trouvé 50 tonnes de poissons de crevés.
50 tonnes ?
50 tonnes de poissons. Après des recherches par nos gardes, nous sommes arrivés 3 jours après à trouver le responsable, l'usinier responsable. Celui-ci, nous l'avions contacté, bien entendu, tout au début de la pollution. Et il nous a dit que c'était lui responsable que 3 jours après.
Et ici, les gens, que font-ils là? Ils peuvent se baigner?
Comme vous le voyez, c'est un étang quand même où il y a des pêcheurs, il y a un établissement de bain, il y a des gens qui auraient pu se baigner à ce moment-là. Du reste, je crois qu'il y a des chiens qui ont bu de l'eau, il y en a un qui crevait. Ça aurait pu être catastrophique. Je ne sais pas si je peux le dire, mais que la ville de Saint-Quentin, il y a eu de l'eau avec des traces de cyanure.
De l'eau potable?
De l'eau potable, oui. L'industriel était complètement responsable. Maintenez-vous bien, on est 2 ans après, il est passé en correctionnel. La condamnation, la fédération a obtenu le franc symbolique qu'elle avait demandé, mais la condamnation du directeur a été de 100 000 anciens francs.
Et 100 000 anciens francs?
100 000 anciens francs.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, mercy, mercy me. Things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are lies. Mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand? Oh, no. That's right.
Au sommet incontestable de toutes les chansons vertes du monde, on retrouve cette chanson Mercy Mercy Me, The Ecology, signée Marvin Gaye. Est présent sur son 33 tours monumental de 1971, What's Going On, où Solman s'insurge contre la guerre du Vietnam et tous les sévices occasionnés à notre environnement lorsque les USA déversaient napalm et agents orange sur les rizières extrême-orientales. Sans doute le texte le plus prophétique d'entre tous, car ce que décrivait Marvin Gaye, voilà plus de 40 ans, trouve des échos étranges à la situation actuelle. Voilà pour la petite histoire. On continue avec un deuxième extrait de ce petit reportage intitulé « Les pollueurs face à la justice ». On est toujours au début des années 70, 1973 très précisément. On découvre ici une autre rivière polluée, l'Aisne. L'administration est toujours aussi complaisante avec les industriels, voire laxiste. Archivina et Baudidley ensuite.
Un autre exemple, c'est une usine qui se trouve sur la rivière Aisne, une cartonnerie qui pollue depuis plus de 20 ans. Même comme vous le constaterez, l'eau est toujours excessivement noire et cette eau, en principe, va jusqu'à la sortie de Compiègne.
Ça fait combien de kilomètres ?
Ça doit faire à peu près 80 kilomètres. Et l'eau est polluée, c'est-à-dire que l'eau est noire. Et elle restera toujours noire. Les poissons ne se reproduiront plus, puisque la faune et la flore vont disparaître.
Et vous avez fait un procès ?
Nous avons déposé plainte. Et actuellement, on est obligé, si vous voulez, de faire une transaction amiable, puisque nous ne pouvions plus aller au pénal, l'administration ayant abandonné la procédure contre l'industriel.
À quoi faut jouer là ?
Alors là, je prends de l'eau. Je vais d'abord mesurer la température du rejet. Et j'en prends dans les flacons d'un litre pour faire des analyses plus poussées, nitrate, phosphate, chlorure, ce qu'on appelle une ABC2. Là ici, je ferai une mesure de DCO et puis une mesure de DBO si ça marche.
Bon, tout cela qui a l'air très compliqué, c'est pour voir si l'eau est pure ou pas pure.
C'est ça, oui.
Mais a priori, elle n'a pas l'air d'être très pure.
C'est-à-dire qu'on peut remarquer qu'il y a quand même des paquets de mousse. Et on a évalué un pH de 3 dessus, ce qui est déjà quand même fortement acide pour un rejet. D'ailleurs, vous pouvez regarder du point de vue coloration, la différence des deux plages dans l'hémisphère récepteur.
Ça veut dire qu'ici, c'est déjà le fleuve, c'est la nature.
Ici, c'est un ruisseau qui rejoint la rivière Somme. Et ici, vous voyez qu'il y a une grossière décantation, rien d'autre. Il n'y a pas un traitement biologique ou chimique destiné à rendre les eaux usées compatibles avec le milieu récepteur.
Et ça sort directement de l'usine,
pratiquement. Oui.
Il y a à peu près 20 ans, si vous voulez, qu'on bataille avec l'usinier pour les obliger, si vous voulez, à décanter leurs eaux. Alors jusqu'à maintenant, il n'y a rien eu de fait, comme vous le voyez. L'usine a doublé sa production, c'est ce qui s'est passé. Et bien entendu, maintenant, c'est catastrophique, puisque cette pollution que nous avons ici, que vous voyez le début, se fait sentir jusque dans le département de la Somme, c'est-à-dire sur, je ne sais pas moi, plus de 30 km.
Mettez-vous là.
Ça fait à peu près 30 km, si vous voulez, de pollution. Alors, actuellement, je
Est-ce que vous avez porté plainte contre l'usine ?
Il y a une plainte qui a été déposée en mai 1971.
71, oui.
Jusqu'à maintenant, nous attendons toujours le résultat. Malgré nos différentes démarches, il n'y a jamais eu de solution.
Ah bon, vous n'avez aucune nouvelle ?
Il n'y a aucune nouvelle. Et alors que nous avons eu, à la suite d'une pollution d'ici de la CTA, une pollution catastrophique, puisqu'elle s'est située à plusieurs tonnes de poissons.
Et nous en avons perdu 10 à 12 tonnes en 1971 et 1972.
Ça fait donc 2 ans que vous dites que cette eau est polluée.
Oui.
Et elle est toujours polluée.
Oui.
Donc vos rapports, ils n'ont pas l'air d'avoir une utilité très grande.
Aucun effet.
Aucun effet.
Aucun effet.
don't understand. Stop throwing your garbage in the street and use your can. Pollution.
Diddley, Pollution, un morceau de 1971. On continue l'histoire du jour en France. On quitte la Picardie pour la Bretagne avec une autre pollution qui a fait jaser, celle des algues vertes. La première marée verte date de 1971, l'année où paraît cette chanson. Et ce n'est un secret pour personne, ce sont les intrants chimiques utilisés dans l'agriculture, encore les élevages de porcs qui sont à l'origine de ce phénomène. Au moins 3 hommes et 40 animaux sont morts depuis la fin des années 80. Un phénomène, un scandale sanitaire et environnemental que beaucoup veulent taire, trop dérangeant pour les tenants de l'agriculture dite conventionnelle. Pour comprendre cette omerta, la journaliste Inès Leroux et l'illustrateur Pierre Van Hove ont créé une bande dessinée enquête parue le 12 juin 2019. Très bonne BD. On écoute la journaliste à l'origine de cette bande dessinée parler de cette histoire et on écoutera ensuite le morceau What a Pollution de Alton Ellis. C'est parti.
Bonjour Inès Leroux, vous en êtes l'auteur. Histoire interdite, parce que vous refaites justement l'histoire d'un sujet qui dérange, d'une omerta.
D'une omerta depuis quasiment un demi-siècle, d'une fabrique du silence. Et c'est vrai que bon, moi, j'avais pour idée de reconstituer cette histoire, de la retracer, et que je me suis moi-même heurtée à un mur du silence quand j'ai voulu interroger les autorités ou les industriels en Bretagne ou l'administration.
Il y a quelques grands épisodes qu'on peut resituer. Un cheval meurt sur la plage de Saint-Michel en grève en 2009. Des sangliers succombent sur les berges du Gouessant en 2011. C'est le déni. Vous citez par exemple les propos du préfet des Côtes d'Armor à l'époque. Comment vous ressentez ces attitudes a posteriori?
A posteriori, en fait, vous voulez parler des propos du préfet des Côtes d'Armor
en 1991. Ce qui est invoqué à l'époque, c'est que les sangliers se sont étouffés avec de la vase.
D'accord, en effet. Comment je vois l'histoire aujourd'hui, je pense que c'est une histoire de déni, en effet, d'occultation. On savait tout, en fait, quasiment depuis le début. Les preuves scientifiques sur l'origine des marées vertes sont apportées à la fin des années 70 par l'ancêtre de l'Ifremer. Le premier mort en 1989... qu'on soupçonne être en lien avec les algues vertes, voilà, est mis en lumière par l'urgentiste de Lannion, Pierre Philippe. Et puis finalement, ensuite, c'est ce sur quoi j'enquête. Il y a une sorte de storytelling, une fiction qui est produite par les autorités, par les industriels, parce que c'est...
Pour préserver le modèle agricole, pour préserver le tourisme, parce qu'on craint toujours...
C'est la première économie.
Il faut le redire, hein, ce qui est craint toujours, c'est l'H2S. Hein, donc c'est un gaz toxique à haute dose, hein, ça peut provoquer la mort, il y en a eu des preuves. Vous montrez que dès 1991, la préfecture des Côtes d'Armor confirme à la maire d'Ilion de l'époque, Yvette Doré, qu'on le sait.
Voilà, dès 1991, en effet, la préfecture des Côtes d'Armor écrit un courrier disant qu'un chien est mort sur une plage et que cette mort est sans doute liée à l'hydrogène sulfuré, ce gaz produit par les algues vertes en putréfaction qui peut tuer aussi rapidement que du cyanure. Et voilà, c'est dit au début des années 90.
Il y a eu cette affaire terrible, Thierry Morfois, c'est un conducteur de camion qui évacue ces algues, donc il meurt en 2009. Ce sont les associations qui ont fait reconnaître les causes réelles de sa mort. Vous leur rendez hommage d'une certaine façon.
Oui, dans ce livre, en fait, clairement, ce livre et cette enquête, elle n'a pu exister que grâce aux scientifiques du CNRS de l'Ifremer, à certains médecins comme l'urgentiste de Lannion, Pierre-Philippe, et aux associations qui étaient toujours là pour documenter... Pour recueillir des archives.
Notamment, que l'on entend dans nos journaux régulièrement. Voilà. Un dernier mot, si vous le voulez bien, sur les agriculteurs. Ils sont tantôt les auteurs du problème, tantôt vous les placez aussi parmi les victimes d'un système.
Moi, je les place que comme victimes, enfin, en tout cas victimes, pas comme responsables. Je les vois vraiment comme des ouvriers d'usine, en fait. Et on n'ira jamais accuser les ouvriers d'une usine de pollution produite par leur entreprise.
Voilà. Merci beaucoup Inès Leroux. On rappelle que c'est chez Delcourt et c'est déjà dans les librairies depuis le 5 juin. Merci encore. Merci.
Un peu de légèreté dans cet amas d'informations déprimantes, la pollution et le greenwashing made in Groland, ça dure pas longtemps, mais ça fait du bien, un petit shoot d'humour noir pour reprendre un peu de force avant d'enchaîner sur d'autres horreurs. On écoutera ensuite Tower of Power, Only So Much Oil in the Ground. C'est parti.
Pour s'adapter au nouveau mode de consommation éco-responsable, le monde agricole grolandais est en train de faire sa révolution. À l'image de Patouflet Glandion, agriculteur à Voulny-les-Méduses.
On doit tous changer nos habitudes. Nous, on privilégie la production raisonnée et les circuits courts. On est intraitable là-dessus, intraitable.
J'utilise que des bons produits, hein.
C'est ainsi que les polyphosphates de Patouflet sont produits à moins de 30 km de sa ferme. Ces engrais au sulfate d'ammoniac viennent d'un petit laboratoire local tenu par des chimistes passionnés. Ces pesticides organochlorés sont certifiés AOP Groland du Côté, Quant à son glyphosate, il est fait maison par Madame Glandion elle-même.
Tiens, goûte.
Une nouvelle façon responsable de concevoir l'agriculture pour un avenir meilleur.
Parfait.
bad situation.
Big Youth, Downtown, Kingston Pollution pour clore cette première partie d'émission consacrée à la pollution, pollution de l'air, pollution de l'eau surtout, pollution des sols. On quitte la France et le Groland pour l'Inde avec un des fleuves les plus pollués du monde, le Gange. Le fleuve mer, comme le surnomment les hindous, est une ligne de vie, une source de prospérité économique, autant que de vénération religieuse. Sur les 2500 km, de son parcours, les eaux du Gange seraient capables de guérir ceux qui s'y immergent et de les libérer du cycle des réincarnations. Elles irriguent 30% du territoire indien, lavent et nourrissent 450 millions de personnes, soit 40% des Indiens. Mais aujourd'hui, le Gange est en sursis, plus près que jamais de l'asphyxie, souillée par près de 3 milliards de litres d'eau usée par jour, représentant un taux de pollution 3000 fois supérieur aux recommandations de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Un fleuve devenu une poubelle à ciel ouvert. Exemple à Varanasi, anciennement Benares, au lieu touristique où des centaines de millions de litres d'eau usée et domestique se déversent chaque jour, ainsi que 260 millions de litres de résidus industriels provenant de tanneries, distilleries, papeteries, manufactures textiles, usines pharmaceutiques et fertilisants. À ce cocktail explosif de produits chimiques, déchets et pollution domestique s'ajoutent les résidus des 40 000 corps brûlés chaque année, avec des corps directement immergés dans le fleuve, lestés d'un bloc de béton pour des raisons religieuses ou financières. Bref, état des lieux avec cet extrait de JT de France 2 du 3 septembre 2018. Il sera suivi par le morceau Pollution Dub de Ja Warrior. C'est parti. Direction l'Inde.
Ces vieilles pierres auraient plus de 5000 ans. Voici Varanasi, anciennement Benares. L'une des plus vieilles cités habitées au monde. L'une des plus sacrées aussi. Entièrement tournée vers le fleuve Gange, les dévots hindous viennent y laver leurs péchés, mais aussi incinérer leurs morts. Plus de 300 crémations y ont lieu chaque jour. Les restes humains sont ensuite immergés dans le fleuve. Des rituels qui attirent chaque année plus de 3 millions de touristes venus du monde entier. Comme Sonia et Dominique, les deux jeunes femmes ont fait le voyage depuis l'Argentine pour contempler la ville depuis le fleuve. Mais ce matin, ce qu'elles voient surtout, ce sont les ordures qui jonchent la rivière.
On voit tellement de gens se baigner dans le Gange, et pourtant il paraît que c'est une des rivières les plus contaminées. Ils se baignent et nous ne voudrions même pas toucher l'eau.
Le Gange, c'est l'attrait touristique ici, et pourtant, le Gange se meurt. Les visiteurs s'en rendent parfaitement compte et repartent dégoûtés.
Ils jettent tous leurs déchets et même les cadavres dans l'eau. Et à cause de ça, la rivière est immonde, extrêmement sale. C'est une très belle rivière, mais c'est dégoûtant.
Selon ce batelier, 50% des touristes ne viennent plus désormais, effrayés par cette extrême pollution. Ils nous emmènent voir la cause de tout ça. Une sortie d'égout colossale, situé à seulement quelques centaines de mètres du centre historique.
Voilà, ce sont les eaux usées de la ville. C'est la plus grosse sortie d'égout de Varanasi. Et il y en a une autre plus grosse encore là-bas, après le pont. Il y en a 36 en tout, comme celle-ci. Et ça coule 24 heures sur 24.
200 millions de litres d'eau rejetés chaque jour sans aucun traitement. Rien. Le taux de matière fécale, de produits toxiques et autres bactéries a tué la vie du fleuve à cet endroit. La raison est d'abord démographique. 450 millions de personnes habitent sur les rives du Gange, 1 million de personnes en plus chaque année. Les déchets domestiques explosent et finissent systématiquement dans le fleuve. Mais le problème est aussi politique. Sanjay Sharma, de la municipalité de Varanasi, organise une petite session de nettoyage pour notre caméra, histoire de montrer que la pollution est prise à bras-le-corps.
Pourquoi il y a encore ça ici? Pourquoi? Allez, nettoie-moi ça tout de suite.
Son organisation est liée au parti du Premier ministre Narendra Modi, qui avait promis il y a 4 ans de dépolluer le Gange. Pourtant, absolument rien n'a été fait. Nous sommes allés là-bas et nous avons vu l'immense sortie d'égout. Que fait le gouvernement?
Le gouvernement est en train de s'en occuper. Nous allons fermer cette bouche d'égout et nous allons filtrer l'eau avant de la rejeter dans le Gange.
Depuis 20 ans, tous les gouvernements promettent mais ne font rien. Aucune station d'épuration n'a été installée. Varanasi, ville sainte, millénaire, connue dans le monde entier, se transforme chaque jour un peu plus en gigantesque égout à ciel ouvert. Ah, yeah. Yeah, yeah. Ah.
So many man, I wear dreadlocks. I and I know, say, no far fast locks. Yes, them a pollute Rasta, yeah. So many people are with the fast locks. I and I know, say, them ignorant. Yes, them a pollute I and I. Cha a go mash them, cha a go batter them, cha a go lick them with the rod of correction, cha a go put them under great separation in this year judgment. Woe be unto those wicked, I say.
Warrior Pollution Dub après l'Inde, un autre pays qui s'est développé à vitesse grand V grâce à une croissance à deux chiffres pendant très longtemps. C'est le lieu de fabrique de toutes nos merdes en plastoc qui inondent nos maisons, nos vêtements, matériel de bricolage, électroménager, hi-fi à l'obsolescence programmée. La Chine, devenue l'usine du monde grâce à la logique néolibérale et l'absence de normes environnementales là-bas. C'est l'autre versant de la mondialisation, les délocalisations chez nous, le chômage là-bas, c'est le plein emploi, mais toutes ces années de production industrielle intensive ont généré une pollution de l'air, de l'eau et des sols sans précédent. Autre extrait de reportage réjouissant du jour, direction Chilito en Chine, ça date de 2008, je sais pas si ça va mieux depuis, mais en tout cas en 2008 ça se passait comme ça.
Le village de Chilito, à 300 km de Pékin. Un village du cancer comme il en existe des dizaines d'autres. Ici, les champs de haricots sont irrigués par les eaux noires de ces rivières, des rivières dans lesquelles se déversent les déchets des usines de la région. Une industrie qui fonctionne jour et nuit, au mépris des règles élémentaires de sécurité.
L'air est pollué, ça sent vraiment très mauvais ici. Je travaille dans un champ plus au sud et des fois, il y a une odeur tellement forte que je ne peux même plus respirer. Mais il n'y a personne qui s'en occupe.
On recense ici plus de 300 morts du cancer ces dernières années. Un dixième de la population de Shidito a succombé à la maladie. L'air, la terre et l'eau sont pollués depuis plus de 20 ans.
C'est vrai, il y a beaucoup de morts. Mon frère est mort l'année dernière. Il était encore jeune. Il avait 54 ans. C'est à cause de la pollution de l'air. C'était un cancer du foie. Mais on n'avait pas d'argent pour le soigner.
Les analyses ont révélé des taux de plomb 300 fois supérieurs au seuil dangereux pour l'homme. Le gouvernement fait la sourde oreille. Beaucoup de fonctionnaires sont également des hommes d'affaires. Ils ont investi dans ces usines.
Depuis des années, personne ne s'est occupé des problèmes de pollution ici. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi le gouvernement laisse faire ça? Bon, je dois y aller. J'ai quelque chose à faire.
Beaucoup de ces habitants ont reçu des menaces et refusent maintenant de parler. En Chine, le taux de cancer est un secret d'État.
Si le cas de ces gens était présenté devant une cour, si nous apportions la preuve que les gens sont bien morts d'un cancer lié à la pollution, et si l'opinion publique l'apprend, eh bien c'est certain, cela poserait des problèmes pour la stabilité du pays. Le gouvernement s'inquiète de cela, mais d'un point de vue juridique et en tant qu'avocat, je pense que la cour doit s'en tenir strictement à la loi.
Mais la justice n'a pas donné suite aux plaintes de ces villageois. La course au développement ne doit pas souffrir d'obstacles, même si pour les villageois de Shidito, c'est une mort certaine qui les attend.
Masta Aerots Circus Mr. Pollution Man, on continue les bonnes nouvelles du jour. Direction Brésil avec une pollution monumentale qui a ravagé le fleuve Doce et ses affluents en novembre 2015. La plus grande catastrophe environnementale du Brésil avec la mort à petit feu de la forêt amazonienne, des produits toxiques contenus dans les eaux de barrages dus en grande partie à l'exploitation de minerais, un barrage entretenu par un privé, l'entreprise et multinationale Vale, et puis le point d'orgue avec la rupture de ce barrage le 5 novembre 2015, 650 km de rivières contaminées, des eaux rouges ocre visibles depuis le ciel à perte de vue, une vingtaine de morts seulement, c'est un miracle, mais un milieu contaminé probablement pour des milliers d'années. On appelle maintenant ce fleuve la rivière morte. En octobre 2019, toujours aucun responsable désigné, même pas l'entreprise qui avait en charge l'entretien du barrage. Séquence souvenir, petite musique tragique, ton monocorde, ça s'est passé le 5 novembre 2015.
Un immense fleuve de boue, large de plusieurs centaines de mètres, qui a tout englouti sur son passage. Ces images ont été tournées dans le sud-est du Brésil le 25 janvier. En cause, la rupture d'un barrage pour une raison encore inconnue. Depuis, les sauveteurs tentent d'y retrouver des survivants, comme cette personne blessée qu'ils parviennent à extraire de la boue. 3 jours après la catastrophe, on dénombre 58 morts et plus de 300 personnes sont encore portées disparues. Cette catastrophe majeure n'est pourtant pas inédite. En 2015 déjà, à une centaine de kilomètres de là, un autre barrage avait rompu. L'événement avait coûté la vie à 19 personnes. Il avait aussi provoqué d'énormes dégâts pour l'environnement. Construits trop près de zones habitées, ces deux barrages possèdent un autre point commun. Ils ont été bâtis par une compagnie minière pour stocker les boues polluées issues de l'exploitation du sol. Conséquence, en 2015, le déversement de ces boues toxiques avait dévasté l'écosystème sur plusieurs centaines de kilomètres. Dans les deux cas, les mines et leurs barrages étaient détenus par la même entreprise, la multinationale brésilienne Vale, suspectée de négligence. À peine 2 jours après la dernière catastrophe, plusieurs milliers d'habitants ont été évacués car une seconde digue, située à proximité, menace de céder. Les risques liés aux barrages brésiliens sont très mal connus. Le pays compte en tout 24 000 barrages et seulement 154 contrôleurs veillent sur leur état. En moyenne, chacun aurait ainsi la responsabilité de plus de 150 barrages. Une mission quasi impossible. Ainsi, en 2017, à peine 3% ont été contrôlés.
Get shot, yeah. pollution out on the street. Yeah, all I can see, all I can see is my little brother them dying.
C'était Barry Brown avec son Big Big Pollution, les derniers cas de figure du jour consacrés aux pollutions avec les algues sargasses qui envahissent tout le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Selon les derniers travaux scientifiques, cette ceinture de sargasses longue de plusieurs milliers de kilomètres représente la plus grande prolifération de macro-algues jamais observée. Le phénomène ne semble pas être nouveau, mais il constitue un vrai problème depuis 2011. Au-delà des dégâts écologiques engendrés, ces algues dégagent une odeur bien dégueu et ça gêne quelque peu les touristes venus profiter du charme des plages caribéennes. Exemple de ces petits agréments dans les Antilles françaises.
Depuis 2011, les côtes des Antilles sont envahies par cette algue, la sargasse. Sa putréfaction dégage des gaz toxiques, obligeant les riverains à quitter les lieux, et le nettoyage incessant n'y fait rien, elle revient par milliers de tonnes. D'où viennent ces algues? Pourquoi cette prolifération? C'est un mystère. À 6000 km de là, à Marseille, une équipe de chercheurs du laboratoire océanographique MIO mène l'enquête. Ici, pour la première fois, ils ont réussi à cultiver l'algue en reconstituant son milieu d'origine.
Après, le problème, c'est qu'elle ne développe pas de feuilles. Tu vois, les feuilles les plus grosses, elles sont là.
Ça, c'est un manque de lumière, c'est pour ça.
Ces algues marines n'ont quasiment jamais été étudiées. Pour ces scientifiques, tout reste à faire.
Elle s'est ramifiée, quoi. C'est affolant. Hein.
Les connaître, c'est fondamental parce que chaque espèce va avoir des caractères morphologiques, physiologiques, des propriétés très différentes. Et ensuite, par exemple, si on veut exploiter une ou les trois espèces, c'est pas pareil. Voilà. Donc, il faut connaître, je dirais, le coupable du crime. Quoi.
Mais sur les lieux du crime, au nord des Antilles, là où Christophe Colomb a découvert la mer des Sargasses il y a 500 ans, il n'y a plus rien. C'est au sud, entre l'Afrique et le Brésil, que l'équipe a découvert une immense mer de Sargasses. Des radeaux dérivants de plusieurs centaines de mètres circulent entre les deux continents. En laboratoire, l'analyse biologique des échantillons récoltés permet de livrer les premières hypothèses de cette prolifération.
La première piste, c'est qu'il y a un enrichissement en éléments chimiques au large des côtes du bassin amazonien, à cause de l'agriculture, etc. L'eau qui ruisselle sur les terres et qui arrive dans l'océan est probablement beaucoup plus nutritive que ce qu'elle était auparavant. En deuxième, certainement une contribution du réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique peut favoriser certaines espèces. Il suffit souvent d'un dixième de degré pour faire basculer une espèce dans un état de prolifération, alors qu'avant, elle avait une croissance normale.
Un autre indice permet de confirmer ces hypothèses, les images satellites. À force d'observation, les chercheurs ont réussi à établir un modèle de circulation des radeaux d'algues dérivants.
Puis elles vont aller vers l'ouest. Une partie va aller vers les Antilles, tandis qu'une autre partie, transportée par le contre-courant, retourne vers l'Afrique.
Ils peuvent maintenant établir les premières prédictions.
J'étais très inquiète quand on m'a envoyé cette photo, parce qu'il y a énormément de sargasses, beaucoup plus que les années précédentes. Et ces sargasses vont en partie aller vers l'ouest et s'échouer sur les plages des Antilles. Donc cela laisse présager énormément d'échouages entre le mois d'avril jusqu'au mois de août à peu près, comme l'année dernière.
À terme, l'identification précise de ces sargasses et la prévision de leur échouage pourraient permettre de les récolter et même de les valoriser. Mais aujourd'hui, faute d'un budget spécifique, cette recherche est menacée.
Voilà pour les réjouissances du jour. C'était la deuxième émission sur le cycle des chansons écologistes vertes et apocalyptiques. Vous retrouvez le podcast très bientôt sur le site de RDWA. La semaine prochaine, on va parler apocalypse, Armageddon, la fin du monde, fin de la civilisation, encore très gay. Je vous laisse pour cette dernière chanson du jour avec John Clark et le morceau Pollution. On se retrouve la semaine prochaine. C'était À la recherche du groove perdu. Restez sur votre radio locale. Ciao. Can't stand the smokes from the trucks and motor cars. Can't stand those gases that they all are giving off. Sometimes I feel like I wanna really die. When I breathe in those garbage all the while, whoa, pollution. I just wanna go and live by the countryside, where I can meditate and breathe fresh air all the while. Sit by the cool, cool riverside. Pollution. Too many cars. Pollution. I wanna go and live right by the countryside, where I can breathe fresh air all the while. Whoa, pollution.